Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, Contre-Histoire vous emmène à la campagne. On va rencontrer deux personnages historiques et sympathiques, et plus que ça encore. Ils ont le même âge. L'un est Normand, de la Manche, fils et petit-fils de paysans, repreneur de la ferme paternelle qu'il exploite en famille. L'autre a des attaches bordelaises. Petit-fils de maraîcher, né au rural, installé en GAEC, le groupement agricole d'exploitation en commun, installé en GAEC sur le Larzac, et les deux sont quatre. Sans Françoise et Alice pour leur donner la réplique, l'un et l'autre de nos héros ne seraient pas du tout ce qu'ils sont. Le premier a fait un détour par le productivisme des années 70, puis s'est converti à l'agrobiologie. Le second rêvait de bio, mais s'est installé en agriculture paysanne. La Loire les sépare, le lait les réunit. Lait de vache pour l'un, lait de brebis pour l'autre. Les deux ont, depuis l'âge de raison, un fort intérêt pour le collectif. Quand l'un s'investissait traditionnellement dans la défense de son métier, l'autre œuvrait déjà à refaire le monde. Le premier a découvert à ses dépens la trahison syndicale. Le second a toujours campé sur le contre-pouvoir. Le premier a eu un parcours classique de militant local FDSEA, promu à un bel avenir, qu'il a sabordé en refusant le double discours, celui que l'on apprend à tenir aux adhérents, tout en se gardant de tenir le même au ministre. Entre gauchisme violent et théoricien du grand soir, son camarade n'a jamais quitté les chemins difficiles de la non-violence active, qui, sans jamais s'en prendre aux hommes, rectifie l'usage des biens. La fidélité à leurs paroles les rassemble dans la mouvance des paysans travailleurs. La tendance créée par Bernard Lambert au sein du Centre national des jeunes agriculteurs, le CNJA, deviendra un mouvement autonome au lendemain de mai 68. Il évoluera pour devenir, en 1987, après fusion avec la FNSP, la Fédération nationale des syndicats paysans, la Confédération paysanne. Nos deux héros ressemblent sur un point précis dans la bagarre, quand la tension monte en tête de manifestation, quand un rassemblement menace de se disloquer faute d'action concrète, ces deux-là savent où, quand, comment, jusqu'où on peut aller trop loin. Une sorte d'instinct, un sens de l'anticipation sur à la fois le désir du groupe et ce qui va être la réaction de l'adversaire. Ils le flairent. Sur le terrain, ils n'ont pas besoin de longue analyse pour savoir s'ils peuvent foncer. Ils voient tout de suite l'intérêt politique d'une action. Ils sentent l'envie, la nécessaire dimension ludique, parce qu'on ne va jamais bien loin sans l'envie des gens, ni sans la légitimité du groupe que l'on incite à se dépasser. C'est ainsi qu'on fait monter l'Aveyron à pied à Paris, qu'on installe une ferme sur les planches de Deauville ou que l'on démonte un McDo. Voici rapidement brossés les itinéraires de l'un et de l'autre, deux amis et compères, deux hommes discrets, éclairés par leurs convictions. François, un homme de cœur. La scène se passe à la tombée de la nuit sur le trottoir d'une rue de Washington en novembre 1999, à deux pas d'un carrefour fréquenté. Couché par terre, un homme râle, visiblement mal en point. Les passants, indifférents, s'éloignent sans un regard pour le malade. La tenue de l'homme indique clairement sa pauvreté, et sa peau, son origine afro-américaine. Dès qu'il aperçoit cet individu mal en point, un homme blond, au regard clair, se penche sur lui et tente de s'enquérir de sa mauvaise santé. François Dufour se relève et cherche de l'aide. car c'est pas possible de laisser un gars dans cet état sur le trottoir. » Les serveurs du restaurant, au pied duquel le malade s'est effondré, regardent, sourire en coin. François Dufour accoste en vain les Américains pressant le pas vers leurs occupations. Un des garçons condescend à donner l'indication de police secours. Trois voitures de police arrivent, toutes sirènes hurlantes, suivies d'une voiture de pompiers et d'une ambulance. François Dufour vient d'écrire le début d'un feuilleton américain. François Dufour, c'est un cœur gros comme ça, un impulsif de ceux qui ont le courage de leur sensibilité. Peut-être tient-il cela des chevaux, animaux émotifs qui partagèrent son enfance, avec lesquels on ne communique qu'en un mutuel respect. François, c'est la troisième génération de Dufour, en fermage à la Binolet, commune de Saint-Seigné-de-Beuvron, à quelques prés salés du Mont-Saint-Michel. Le père de François élevait une vingtaine de chevaux de selle. François les chevauche dès l'âge de 7 ans, plus attiré par ses géniteurs des héros de concours épique que par la dizaine de vaches laitières vouées à compléter le revenu. Les parents écrèment et barattent jusqu'en 1970 avant de livrer leur lait à l'Union laitière normande. Une enfance d'agriculteur normand, entre écurie et marchand de beurre, complétée par un brevet professionnel agricole agrémenté de classiques journées de formation à la gestion. Avec un père fermier adhérent à la FDSEA, le fils ne peut qu'être attentif à la pression foncière dans le bocage. Le statut du fermage, conquête de 1946, garantit aux fermiers de pouvoir exploiter dans la durée grâce à un bail. François remarque vite que l'accès au foncier pour les petits paysans est aussi conditionné par le prix de ces baux, lesquels baux donc s'achètent et fort cher. Prix poussé à la hausse par les surenchères des notables, notaires et marchands de vaches. Prix accessible aux grosses exploitations qui s'agrandissent toujours en asphyxiant un peu plus les petites. Un problème tabou à la FDSEA, où l'on feint d'ignorer le besoin en surface des petits paysans considérés comme peu rentables et bons à éjecter. Une tendance aggravée par la politique des SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, favorisant les agriculteurs compétitifs, c'est-à-dire dans la ligne du toujours plus. Le problème chatouille François, qui commence au début des années 70 à naviguer à la recherche d'une équipe pensant un peu comme lui que la situation ne pouvait plus durer. Il se trouve des atomes crochus avec d'autres petits fermiers de la Manche, confrontés aux problèmes fonciers et remettant en cause la politique agricole européenne, qui abandonnait sa paysannerie de base et laminait les jeunes en les faisant passer par des goulots d'étranglement. En 1974, ils prennent la route jusqu'au Larzac pour le rassemblement de l'été, avec l'espoir d'y rencontrer des paysans ayant une démarche similaire à la leur. François débarque sur le Causse, la peur au ventre, et en même temps l'envie d'y trouver du punch pour au retour fortifier le mouvement. Il est marqué par les ouvriers de chez Lippe dans leurs blouses blanches, le spectacle des différents mouvements sociaux. François découvre la révolte ouvrière, qui de loin l'inquiétait toujours un peu. Il se souvient de François Mitterrand, chahuté par les gauchistes, et surtout de sa rencontre avec les paysans bretons. Ils sont, comme les Normands, engagés dans les luttes foncières. Leur rencontre va devenir une relation privilégiée. François se découvre un autre regard sur les gens, sur le monde. Il ne vit plus de la même manière les luttes des ouvriers syndiqués contre leurs patrons ou la situation des salariés des coopératives de paysans. Conditions de vie, de travail, reconnaissance, statut, leurs problèmes ne sont pas différents avec les nôtres. Le Larzac était de ces choses qui nous forgent la couenne pour nous aider à organiser plus spontanément nos luttes. François n'a pas mis longtemps à comprendre les limites du syndicat local FDSEA. la censure des positions les plus radicales, l'impossibilité d'en débattre, les doubles casquettes, président du Crédit Agricole et responsable syndical, le pousse à construire un mouvement de résistance et de proposition, car il faut un projet. Le jeune homme n'a pas que de la révolte à revendre. Il a aussi des idées. Une réunion de plus. Ce soir-là, la Jacques, jeunesse agricole catholique, conviait à réfléchir sur les problèmes posés par le modèle de développement dominant, à partir de l'expérience d'un couple qui tentait d'y échapper. François ne retiendra de ce précieux témoignage que la présence de Françoise Bernier. Et vice-versa. Mariage. En juin 76, le couple succède aux parents Dufour sur l'exploitation. Françoise a été élevée, comme François, au milieu des chevaux et des vaches, avec une échappée professionnelle dans un cabinet d'architecte où elle veillait à la bonne marche de la maison. Une reprise de ferme n'est pas une mince affaire. Encadrée par le technicien agricole et par celui de la banque, Françoise et François se laissent couler dans le moule qu'ils combattaient. Oubliant le Larzac et les réflexions de la Jacques, le projet d'installation qu'ils doivent présenter pour toucher la dotation aux jeunes agriculteurs est conforme à l'époque. Résolument intensif. Fini les chevaux. Il s'agit de vivre avec la seule production laitière, revue à la hausse du cheptel, et de ses performances, de quoi mettre la tête dans le guidon et l'y laisser. L'objectif est une montée en puissance jusqu'à 45 vaches. Il faut agrandir les 6 hectares de la surface. Construire une stabulation libre pour les animaux. La stabulation libre est une aire de béton couverte où les vaches viennent se nourrir d'ensilage, de farine et de compléments minéraux, dans des mangeoires appropriées. La stabulation remplace la traditionnelle mise au pré. Un gain de temps en apparence. Car François doit doubler ses heures passées sur le tracteur. Il charrue les prairies naturelles, tire un trait sur les champs de trèfle blanc, rouge ou violet, sur les betteraves et les choux fourragés. Bref, sur toute la science agronomique de 2 générations de Dufour, pour passer à l'alimentation maïs et aux raies grasses ensilées, tourteaux de soja. Les Dufour commencent à leur compte avec un troupeau de 40 bestiaux, composés en majorité de Normandes. Le premier été est celui de la pire sécheresse que le pays ait connue. Une catastrophe fourragère. Dès le mois de septembre, ils doivent acheter de l'aliment pour leurs animaux. On subissait au démarrage la difficile maîtrise des volumes d'alimentation par rapport au nombre d'animaux. L'objectif se réduisait à produire un maximum de lait, quel que soit le coût, sans se poser de questions. L'argent ne fait que passer sur leur compte en banque, vite aiguillé en remboursement d'emprunts, et pour le reste, en règlement de factures d'aliments et d'engrais. En plus de la traite des vaches, Françoise s'occupe des enfants qui viennent embellir les jours de Sébastien, né en 77, et Nicolas l'année suivante. La goutte de technocratie qui fait déborder le temps calais, en 78, s'appelle taxe de co-responsabilité. Elle s'incarne en la personne d'un secrétaire départemental de la FDSEA, sûr de sa bonne parole, venu annoncer au bas peuple manchois la justesse de cette décision bruxelloise qui fait payer aux petits producteurs laitiers la surproduction des gros. S'y opposer reviendrait à entraver la construction européenne, et même pire, à retarder le département. À partir de là, nous n'avions plus rien à faire d'autre dans cette structure, explique François. Il quitte la FDSEA et monte avec ses amis un comité de solidarité des petits et moyens paysans. Et il sillonne la Manche avec une pétition. Taxe de co-responsabilité. La FDSEA vous trompe. 700 signatures dont les dissidents ne savent pas trop quoi faire. Ils les remettent au préfet qui classe l'affaire. Plus tard, au nom du comité, François va soutenir sur place ses collègues fermiers aux prises avec les cumulards et les propriétaires. Ces face-à-face avec des notables apportent un écho médiatique attirant des sympathies nouvelles, ouvriers, intellectuels, vers ces luttes. Le comité n'est pas unique en France. Il est symptomatique du bouillonnement interne à la FNSEA, où nombreux sont ceux qui, tout en gardant un pied dans la structure, commencent à mettre le nez dehors, déchirés entre l'insatisfaction interne et l'aventure extérieure. Ces paysans se retrouvent à bousculer les gendarmes dans les luttes foncières, maintiennent des fermiers contre la volonté du propriétaire. Une époque de rassemblement, de pique-nique, de solidarité, de distribution discrète de tracts en usine, presque en cachette, par peur du qu'en dira-t-on. Pour ébrécher l'image corporatiste collée aux paysans, François porte le casse-croûte au piquet de grève des usines textiles de la région, ou à ceux des postiers. Il entraîne les agriculteurs à venir discuter avec les ouvriers, développe les liens sociaux. Une attention qui le mobilise quand les paysans travailleurs révèlent le scandale du veau aux hormones et des élevages intégrés. François connaît le dossier par cœur quand les Américains tenteront de repasser le plat frelaté en 1999. Le comité de solidarité est un creuset révélateur de la multitude de paysans engagés dans les luttes sociales étouffées par la FNSEA. Et qui, confusément, porte, sans encore le formuler, le refus du productivisme. Il sera parmi les groupes et tendances, syndicat départemental des paysans de Savoie, syndicat des paysans meusiens, espoir rural en Seine-Maritime, syndicat de montagne pyrénéen, etc., etc. Militant de l'AJAC, puis du MRJC, militants fermiers qui, le jour venu, sauront se rassembler sur un projet national. François charruait, semait, azotait, traitait, du matin au soir. Sur la même parcelle, on faisait un maïs intensif, à fort rendement, et en même temps du raie grasse d'Italie. On chargeait le sol en azote pour démarrer le maïs et on le rechargeait, toujours en azote, pour avoir un rendement d'herbe au printemps, sans jamais se poser la question de ce qui pouvait se passer dans les nappes phréatiques. C'était la technique officielle et vulgarisée. Sans elle, nous n'intéressions ni le groupe de développement, ni la coopérative, ni les organismes officiels. Je ne raisonnais donc plus en fonction des besoins des sols et de mes animaux, je vivais dans la hantise de l'erreur technique qui ruine. Le couple est aspiré dans cette spirale de la rentabilité qui pousse à satisfaire la banque avant de s'interroger sur la nature même du travail. Peu importe de produire n'importe quoi, pourvu que la machine tourne, que le monstre avale son comptant d'agio. La brucellose cueille Françoise et François dans l'œil de ce tourbillon. L'épidémie réduit le troupeau à néant en 1980. Certains y auraient vu l'ombre de l'échec. Françoise et François vivent le drame comme un déclin salutaire, car nous n'étions pas faits pour vivre ce type d'agriculture. Mal à l'aise face à l'épuisement des sols, lassés de leurs travaux de forçat, ils font le bilan des dérives et, refusant la fuite en avant d'un nouveau troupeau laitier intensif, ils décident de rebrousser chemin. Décision difficile, qui les désigne dans le milieu professionnel comme des empêcheurs d'agri-manager en rond. Ils en eurent la force, parce que la nature de l'homme, c'est de vivre normalement. Un paysan, comme les autres hommes, a besoin d'une vie de famille. Françoise attendait Benoît, notre troisième enfant. Nous avions envie de nous occuper de nos gosses. Du temps pour les autres aussi. Le couple était engagé dans la vie associative et solidaire des parents d'élèves au tiers-monde, en continuant à dénoncer la manière dont les agriculteurs les plus importants accaparaient la terre avec la complicité de leaders syndicaux départementaux. Attentif aux problèmes du monde, démangé quotidiennement par l'envie de les vivre et de les partager avec des gens, d'y réfléchir et de trouver des solutions avec eux. Les Dufour voulaient aller aux luttes, mais le modèle intensif ne nous le permettait plus, faute de temps. Conscients d'avoir d'abord à prendre des risques pour changer leur propre système agronomique, pour prouver qu'un autre type de développement était possible, ils se préparèrent à la bagarre qui changerait leur vie. Arrêter l'agriculture intensive, se poser des questions pour faire autrement, ne donne pas forcément les réponses. Faire autrement, c'était trouver les moyens d'être moins dépendant de l'extérieur. Ne trouvant aucune aide auprès de la Chambre d'agriculture ou de ses appendices techniques, ils cherchent la réflexion auprès de groupes d'agriculteurs en rupture de modèle, dans la Manche, dans l'Orne, puis rencontrent André Pochon et son équipe du CEDAPA, Centre d'études pour un développement agricole plus autonome, dans les Côtes d'Armor. Ils choisissent de prendre doucement le virage qui les amènera à une agriculture respectueuse des hommes et des sols. Doucement, car outre la pression sociale exercée par ceux qui délaissent les chemins ne menant à rien, la banque verte, et ou soi-disant elle, aiguise les couteaux des 10 années d'emprunt restant à rembourser. 10 années de patience à désintensifier progressivement comme on désintoxique un drogué, pour épargner la banque que l'on vomit. Continuer à ensiler du maïs auquel on ne croit plus, pour arriver un jour à n'en plus semer. Des mois et des semaines à réduire précautionneusement la voilure, sans changer l'allure, pour le moment venu, cingler vers le port du rêve. L'erreur est interdite, mais l'expérience en vaut la chandelle. Si la conversion de leur exploitation, semblable à des milliers, réussit, ils prouveront à tout le monde la crédibilité de leur discours militant. L'exploitation reste laitière, mais sur le principe de n'avoir pas plus d'animaux que sa surface peut en nourrir, ce qui allège le lourd budget des achats. Françoise et François rachètent moins de vaches qu'auparavant, et pour les nourrir, reviennent aux légumineuses dans les pâtures. Les prairies se constellent de trèfles, les vaches diminuent leur performance laitière. On ne voit plus à la Binolet ces mamelles tendues par 7000 kilos annuels. Mais le vétérinaire oublie le chemin de la ferme. Et les placides bovidés reviennent à 5000 kilos par an, vivant plus longtemps. L'abandon de maïs fourragé économise le tracteur, les frais d'entretien et les vertèbres lombaires de François. Les volumes produits diminuent, mais les charges diminuent plus vite encore, dégageant plus de marge pour moins de travail. Insuffisant cependant pour rembourser les folies passées et nourrir la famille qui s'agrandit d'une unité avec Émilie en 1985. Il leur faut compléter par un petit élevage de veaux de boucherie, 35 veaux par an, puis 50. Fidèles à leur démarche, François et Françoise évitent le contrat avec une firme d'aliments qui les ferait retomber dans les schémas qu'ils ont quittés, en fondant avec une trentaine d'éleveurs une petite coopérative, Copelvo. La coopérative les met en meilleure position pour négocier les achats d'aliments. Sous l'impulsion de l'équipe, les ristournes financières sur les volumes livrés aux éleveurs restent acquises à la coopérative et alimentent une caisse de péréquation pour compenser les aléas du prix du veau, soit une forme de maîtrise locale de la production et des prix rémunérateurs. Après la victoire de la gauche aux élections présidentielles de 1981, Bernard Lambert lance un appel au regroupement des paysans pour fonder la CNSTP, Confédération nationale des syndicats des travailleurs paysans. François et le comité de solidarité rejoignent le mouvement. François croyait à la naissance d'un mouvement paysan. Si on savait gommer nos différences, Bernard Lambert et son équipe proposèrent à l'étude beaucoup de textes sur les discriminations introduites par la politique agricole européenne, sur les injustices, sur le statut paysan et sur les dégâts du productivisme. mesurés en perte d'emploi, en exode rural, mais pas encore en impact sur l'environnement. Les rencontres, les débats et les analyses durèrent des mois. François s'investit complètement dans ses innombrables réunions locales au coin de la cheminée ou de la salle communale, où pour la première fois les paysans s'écoutaient penser, sans mentor ni notable. François y évalua le poids des choix politiques sur le métier d'agriculteur et s'efforça d'imaginer des luttes ne réduisant pas l'agriculture au seul acte de production, mais la ramenant vers sa multifonctionnalité primitive. Car notre but et notre boulot ne sont pas seulement de produire. Nous occupons un espace. Nous l'entretenons. Nous participons du lien social rural. Ainsi s'est inventé, à la base, le projet d'agriculture paysanne. Solide matériau de construction des structures départementales du syndicat. François est élu délégué de la Manche au comité national de la CNSTP, Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans. Il y fait connaissance de José Beauvais, lui aussi élu de son département. Le début de presque 20 ans de connivence qui permettront à François de diriger les suites de l'action contre le McDo de Millau pendant la détention de José. Au début des années 80, l'envie de construire autre chose agite les campagnes. En avril 82, des exclus de la FNSEA, grossis d'une deuxième vague de déçus du syndicalisme majoritaire, crée la Fédération nationale des syndicats de paysans, FNSP. François Dufour et Bernard Lambert y comptent de nombreux amis qu'ils regrettent de n'avoir pas vu les rejoindre. Bernard Lambert, qui a plus d'un tour dans son sac de semences, organise dans sa ferme de Théillé une grande fête pour les 25 ans de son mariage avec Marie-Paul, sa compagne. Au rang des invités, on retrouve des leaders de la FNSP et de la CNSTP. Dans la joie et la bonne humeur, les convives fêtent le couple en passant une journée entière à festoyer autour d'une table dressée dans le poulailler. Pendant ces deux repas successifs, certains ne peuvent s'empêcher de confronter leurs idées sur le fond quant à la condition paysanne. François en est. « J'étais sorti prendre l'air, rejoint par Bernard, qui me lâche tout à trac. Crois-tu que nous avons réussi ?» Il n'avait à ce moment-là qu'un seul but, sortir de ce poulailler, avec la voie tracée pour l'union de la CNSTP et de la FNSP. Puis il ajouta, « Ils vont continuer à causer, et un jour, c'est sûr, ils feront quelque chose ensemble. » Son cœur fatigué, hélas, ne permettra pas à Bernard Lambert de voir la Confédération paysanne concrétiser son rêve. En 1983, grâce au temps libéré sur l'exploitation, François s'engage dans l'action communale. Élu conseiller municipal de son village de 350 habitants, il est depuis réélu sans interruption et siège à la communauté de communes. Il accepte ses charges pour rester en contact avec les gens. Les autres l'intéressent. On retrouve ce questionnement sur l'interdépendance des activités et des citoyens dans la tenue des assises paysannes que lancent en mai 86 la CNSTP et la FNSP. Pendant l'hiver 86-87, les deux organisations réunissent par commune et par canton ou par département les acteurs ruraux intéressés par une réflexion sur l'avenir. L'augmentation importante du nombre des agriculteurs en difficulté ébranlait notre regard sur le devenir des paysans. Nous avons réalisé que nous ne sauverions pas notre peau tout seul. La désertification des campagnes, le volume d'argent public englouti par l'agriculture intensive commence à inquiéter les élus ruraux. Plus de 15 000 agriculteurs s'interrogent lors de ces assises sur le devenir de la vie rurale, avec des enseignants, des sociologues, des responsables économiques, des élus locaux. Cette ouverture aux autres composantes de la société, unique dans l'histoire du syndicalisme agricole, débouche sur 2 jours de conclusion les 17 et 18 mars 87 à Bondy. 500 délégués venus de 70 départements s'accordent sur les dérives de l'agriculture intensive et sur un nouveau projet d'agriculture à lui substituer. Une agriculture baptisée paysanne, respectueuse des sols et de l'environnement, harmonieusement répartie sur le territoire, en élevage comme en culture, créatrice d'emplois correctement rémunérés. Bref, une agriculture qui prenne en compte la demande des citoyens. Ce projet politique ne pouvait être porté que par ceux qui, au coude à coude, l'avaient fait émerger. La CNSTP et la FNSP. François vote la fusion des deux organisations. La Confédération paysanne est née. À la Binolet, Françoise et François continuent à réduire le nombre d'animaux. Le maïs a disparu. Les lisiers sont compostés. Le fumier réutilisé en amendement. Violaine est arrivée à la ferme, 2 ans auparavant. C'est une pouliche, issue des mêmes croisements que ceux opérés par les parents de François. Violaine annonçait la réussite du changement de modèle, le retour dans la lignée comme un honneur retrouvé. L'honneur des hommes, Jean Cadiot le défendait en 78 en Loire-Atlantique, par une grève de la faim pour alerter sur le sort des paysans ruinés. À l'époque, François lui rend visite et organise la solidarité dans son département. Il parle longuement de la division par 2, par 3, par 5 du nombre des fermes pour faire admettre à l'opinion publique que l'échelle économique en agriculture résulte plus du système que des erreurs du paysan. Il lutte devant le refus du pays de voir en face la misère agricole constituée en quart monde paysan. En 1989, la Confédération paysanne recueille 18% des suffrages aux élections aux chambres d'agriculture. Le score lui donne le droit à une vraie représentativité dans les instances agricoles. En 1990, à la naissance de Valentin, le 5e enfant du four, François arrête l'élevage des veaux pour avoir du temps à consacrer aux petits. Le pari est gagné. Sans tripler les surfaces, sans course au rendement, une ferme comme la nôtre fait travailler 2 actifs et nourrit une famille de 5 enfants. La même année, François travaille à la mise sur pied des assises nationales des paysans en difficulté qui ont lieu à Rambouillet. À la ferme, il entreprend de replanter un verger arraché quelques années plus tôt. Françoise et lui, en bon normand, ont envie de produire des pommes et du cidre. Violaine a de nombreux poulains et les Dufour peuvent redevenir éleveurs de chevaux. Ils adhèrent à Accueil Paysan, un réseau d'accueil touristique à la ferme, et installent un petit camping à la ferme, histoire de bavarder avec le campeur citadin, d'apprendre du touriste amoureux de la nature, de continuer à être porte, table et tête ouverte. Sur la même idée de la relation ville-campagne, essentielle à ses yeux, François songe à la création d'une association paysan-écologiste-consommateur. L'association connaîtra un développement inégal, mais propagera l'idée qu'une agriculture au service de ceux qui en consomment les fruits, qui la paient 2 fois comme acheteur et comme contribuable, c'est une idée du salut nécessairement commun. En 1995, la Confédération paysanne obtient 20,6% des suffrages aux élections professionnelles. François accepte la tâche de porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Il y déploie ses connaissances, son sens politique, ses convictions, sa curiosité, sa propension à ne laisser personne sur le bord du chemin. La force qu'il puise dans son métier, la réussite de sa ferme, lui permettent de traiter d'égal à égal avec les plus illustres et puissants personnages de la planète. Parce que François est de ceux qui font. Son investissement citoyen le désigne comme représentant de la Confédération à la vice-présidence du collectif ATTAC, l'association pour l'application de la taxe Tobin sur les transactions boursières. Satisfaits du résultat économique de la ferme, Françoise et François ont décidé de la convertir en bio. 3 années obligatoires de mise en conformité avec le cahier des charges, un nouvel approfondissement des connaissances agronomiques et le plaisir d'être en harmonie avec le lieu, le sol et les hommes. La Binolay est aujourd'hui labellisée en agriculture biologique, une évolution donnant envie à Benoît de prendre un jour la succession. Et François peut murmurer à l'oreille de ses chevaux les matins d'impossibles mondes heureux. Non, pas demain, mais là, tout de suite, si on le veut très fort. Et voilà José, l'ancrage au Larzac. Libertaire et pragmatique, avec un goût prononcé pour l'action subversive symbolique, José puise dans ses certitudes une force de caractère et un calme qui lui font soulever sans sourciller les montagnes de la mondialisation. Chez lui, l'étonnement enclenche tout de suite le raisonnement. S'il a des doutes, il n'en fait rien paraître. Ses joies et jardins secrets sont très protégés. Le rebelle est pudique. Il ne chasse ni ne pêche, mais il lit beaucoup. C'est un fin connaisseur du mouvement ouvrier international et de l'histoire des révoltes paysannes de la planète. Henri David Thoreau demeure un auteur de chevet. Poussé dans ses retranchements, tout au plus avoue-t-il son besoin d'océan partagé avec sa compagne. C'est donc à Lacano qu'ils apprendront l'intérêt porté à José par la police judiciaire. José passe sa vie à mettre ses actes en conformité avec ce qu'il pense. Son parcours vaut démonstration d'un monde meilleur. Le questionnement le saisit très tôt, en 68 à 15 ans à peine, dans un collège d'Athis-Mons. Il remet en cause l'école. L'année suivante, c'est au tour de la société de passer au décryptage du jeune José, qui la trouve trop militarisée, trop sous le parapluie du nucléaire. Ce souci le protège des groupuscules gauchistes et le pousse à coller des affiches avec les militants du mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, à défendre les objecteurs de conscience, victimes à l'époque de l'acharnement des tribunaux militaires, à vouloir leur faire passer la vie en prison. Baccalauréat en poche, il s'inscrit en philosophie à Bordeaux, terre familiale. Il ne met guère les pieds sur le campus et préfère continuer ses activités antimilitaristes. Cette sensibilité le conduit à refuser le service militaire et à demander le statut d'objecteur de conscience. Un jour de 71, qu'il peint une banderole contre la militarisation de la société, il lève les yeux sur sa voisine de pinceau, Alice Monnier, étudiante bordelaise en sciences politiques, d'un an sa cadette. Leur histoire d'amour commence là, sur une banderole qui, à l'époque, faisait descendre 1500 personnes dans la rue. Les deux amoureux baignent dans les réseaux catholiques et libertaires non violents. José construisit là sa réflexion sur la finalité du combat politique et sur les moyens de le mener. Il refuse la logique du pouvoir au bout du fusil, car c'est toujours le peuple qui est au bout du fusil. On peut difficilement atteindre un but juste et on ne va pas prêcher la liberté pour les gens armes à la main. José trouve chez Jacques Ellul, excusez du peu, le professeur et théologien à Sciences Po Bordeaux. Il y trouve des analyses, notamment sur l'État et la technique qui structuraient sa révolte. Il fut le premier à théoriser l'autonomie de la technique et comment l'économie et l'État sont victimes de la technique, car elle a sa logique propre. Cette vision mène José et ses amis à une radicalité différente de celle qui anime à l'époque les mouvements d'extrême gauche. Ces derniers s'enferment alors dans les logiques de conquête du pouvoir. José, lui, remet en cause le productivisme. À la logique du pouvoir de l'extrême-gauche, José oppose celle du contre-pouvoir. Il est de ceux, rares, qui, tous les vendredis, assistent au procès du tribunal militaire de Bordeaux pour aider les prévenus et faire des fiches sur tous les procès. Un travail phénoménal qui intéressera avocats et jeunes magistrats militants contre ce tribunal d'exception. Ce réseau antimilitariste est des premiers mobilisés contre le projet d'extension du camp militaire du Larzac. José et ses copains créent un comité Larzac, tout en se demandant comment soutenir la lutte des paysans contre l'armée. Une partie de la réponse vient de Lanza del Vasto, apôtre de la non-violence et chef spirituel de la communauté de l'Arche installée sur les contreforts du Larzac. À Pâques 72, son jeûne de 15 jours unifie les paysans du plateau. Ils font le serment de ne jamais vendre à l'armée, quelles que soient les propositions, de ne jamais quitter leurs terres. Le soutien national va s'appuyer sur ce serment, ce rapport à la terre, lieu de travail et de vie. Dès la première manifestation des 103 paysans menacés d'expulsion à l'extérieur du Larzac, à Rodez, le 14 juillet 72, le comité de Bordeaux fait partie du service d'ordre, composé de militants non-violents. Le Larzac s'inscrit alors dans les préoccupations majeures du couple Beauvais-Monnier. C'est à la faveur d'une réunion à l'Hospitalet du Larzac à Pâques 73 qu'Alice et José découvrent à la fois le Larzac et Bernard Lambert. Le leader de l'organisation Paysans-Travailleurs vient apporter son soutien, mais surtout proposer pour l'été, au 103, l'idée d'un rassemblement de tous les paysans de France sur le plateau, à l'appel des Paysans-Travailleurs. José se souvient de Bernard Lambert arpentant le couloir d'une salle paroissiale en haranguant une rangée de paysans sagement assis de chaque côté. Le rassemblement, c'était une idée de Bernard. Il n'en avait pas discuté à Paysans-Travailleurs. C'était une de ses intuitions politiques. Quand il sentait quelque chose, il fonçait. José reconnaît aujourd'hui avoir un peu le même fonctionnement que le regretté Bernard Lambert, disparu brutalement en 84. Ce qui lui vaut parfois quelques incompréhensions dans sa boutique syndicale, voire quelques inimitiés. Mais en termes d'intuition, il a fait aussi ses preuves. Du Larzac de 71 au McDo de 99, en passant par l'atoll de Mururoa, la saisie de documents sur les importations de farine britannique sous embargo, les destructions de plants transgéniques, etc. Les rassemblements de 73 et 74 sur le Larzac voient converger l'ensemble de la contestation sociale de l'époque. Paysans en colère, grévistes de chez Lippe, objecteurs, prisonniers en révolte, féministes, militants régionalistes et une bonne partie de l'extrême gauche, dont la frange radicale du PSU, la gauche ouvrière et paysanne. On y retrouve Alice, José et les Paysans-Travailleurs, deux étés de suite, participant à la construction de la bergerie de la Blaquière, bâtiment symbolisant la résistance du Larzac face à l'armée. Les discussions vont bon train entre les Paysans-Travailleurs de l'Ouest, très impliqués dans l'agriculture industrielle, et Alice et José, qui, à partir de leur critique de la technique, penchent vers l'agrobiologie. Vif débat également sur les soutiens à apporter aux paysans selon qu'ils sont ou non employeurs d'ouvriers agricoles. Débat qui nourrissent les belles soirées entre gauchistes et syndicalistes. Bernard Lambert, quant à lui, tranche la question des contradictions principales et secondaires, sans hésiter. La contradiction principale n'est pas entre paysans pauvres et paysans riches, ayant les moyens d'exploiter un ouvrier agricole, mais entre l'ensemble des paysans du plateau et l'armée, donc l'État. Dès cette époque, Alice et José songent à s'installer à la campagne, avec un projet d'agriculture alternative. Leur préférence va aux Pyrénées, entre Béarn et Pays Basque, où ils se sont liés d'amitié avec Jean Pitreau, un paysan, qui embauchait des volontaires et des objecteurs de conscience dans une structure de soutien à l'agriculture de montagne. C'était une idée géniale, complètement en marge de la FNSEA. Il s'agissait de montrer à ces paysans exclus du système l'importance de ce qu'ils faisaient. L'agriculture qu'ils pratiquaient avait sa valeur et pouvait tenir. Alice et José se portent volontaires et font pendant 3 mois leur premier pas d'ouvriers agricoles dans une des fermes de haute montagne de la vallée d'Aspe, puis du Pays Basque. Traite manuelle des vaches et transformation du lait en fromage, des leçons qui serviront plus tard. L'expérience même courte marque Alice et José par la confrontation entre leur théorie bio et une réalité sociale qu'ils ne soupçonnaient pas. En septembre 1974, le statut d'objecteur de conscience est refusé à José Bové, 21 ans. Écartant la prison, il se cache pendant presque un an sous les traits d'un ouvrier agricole dans une ferme bio du pays Bazadais, où il transforme le lait de vache en beurre et en yaourt. Alice travaille alors à mi-temps au quotidien Sud-Ouest. Le couple a fait son nid dans une maison amie et discrète. En octobre 1975, quelques jours après la naissance de leur première fille, Marie, ils apprennent la décision du Conseil d'État favorable à José. Suite à la déclaration de naissance, en mairie, la maréchaussée encercle la maison et arrête José. Il se laisse embarquer jusqu'à la gendarmerie et brandit, goguenard, la lettre du Conseil d'État reçue le matin même. Pendant cette année de planque, de réunion en coup de main, José et Alice continuent les allers-retours sur le Larzac. Les slogans leur ressemblent. « Des moutons, pas des canons !»« Le blé fait vivre, les armes font mourir !» Sans savoir s'ils pourraient un jour s'installer sur le plateau, les Beauvais-Mauniers commencent à tanguer entre Pyrénées et Larzac. La vie du plateau relie ce qui les fait courir, l'aspiration à vivre dans une ferme et la lutte antimilitariste. Le Larzac représente, à leurs yeux, la cohérence. Hiver 75. Afin de ne pas laisser 1000 hectares d'un seul tenant vide de tout occupant, les paysans du Larzac décident d'installer les squatteurs dans les fermes achetées par l'armée comme autant de verrous face au projet militaire. L'idée a été mûrement réfléchie avec les géographes des comités de soutien. Alice et José sont volontaires et s'installent dans le plus grand dénuement dès février 76 à Montredon, en lisière du camp militaire, dans la maison où ils vivent toujours, 24 ans après. Il n'y a ni route, ni eau, ni électricité, ni bien sûr téléphone. Oui, alors maintenant, ils vivent plus à Montredon. Quoique je ne sais pas où est-ce qu'ils ont construit leur maison. Mais en tout cas, c'est une maison écolo, autonome, hyper isolée et hyper lumineuse. Montredon n'a plus d'hommes depuis la guerre de 14-18 et plus de fermes depuis 1920. Juste des bergers de passage. Le village appartient tout entier à l'armée. Informé par un ami député du projet d'extension du camp militaire, un spéculateur l'a acheté, ainsi que 1000 hectares et deux autres fermes pour 350 000 francs, et a revendu le tout à l'armée pour 4,5 millions de francs. Tout le village, sauf deux maisons, l'une est une résidence secondaire, le propriétaire refuse de vendre à l'État, l'autre est une belle maison de maître achetée en 75 par l'Arzac Université, l'association d'universitaires et d'enseignants de toute la France pour lutter aux côtés des paysans contre l'armée. Alice et José optent pour une bâtisse achetée par l'armée et démarrent une exploitation aux allures de survie. Aucune banque ne prête à des fermiers squatteurs de l'armée. Grâce au coup de main d'un agriculteur d'une vallée voisine qui déclare leur louer les terres, ils peuvent se déclarer paysans et bénéficier d'une couverture sociale. Leur tracteur est acheté par souscription auprès des comités Larzac. Le même agriculteur leur propose son aide pour élever une centaine de brebis pour la viande. Une agriculture de résistance complétée par les petits boulots de maçonnerie que José trouve à faire aux alentours. La vie est dure. La pression militaire quotidienne, l'eau et sel de la pluie récupérée dans une citerne, l'éclairage est à pétrole, les chemins difficiles, le manque d'argent chronique. L'isolement est rompu en cas d'urgence grâce à un bricolage. Une nuit, ils enfouissent sous un trait de charrue des câbles téléphoniques évidemment offerts par des ouvriers solidaires, jusqu'à la ferme la plus proche d'une cabine téléphonique pour donner l'alerte à chacune des nombreuses escarmouches avec l'armée. Un véritable téléphone de campagne. En juin 1976, José fait partie des 22 personnes qui investissent le camp militaire de la cavalerie et s'emparent des documents attestant des ventes des terrains. 3 semaines de prison. En 1977, on retrouve José au volant de l'un des 90 tracteurs qui pénètrent jusqu'au milieu du champ de tir militaire, avec sur chacun de leurs garde-boue un soldat contestataire en cagoule, délégué par les comités de soldats. de la subversion naturelle sur le plateau. Ce qui était étonnant, c'était de pousser toujours un peu plus loin la subversion en faisant comme si c'était logique et naturel. Bref, des années de courage où les liens tissés par tous les acteurs de cette lutte font encore aujourd'hui les beaux jours du plateau et expliquent la puissance de réaction à l'actuelle surtaxation du Roquefort. Ces années voient néo-ruraux et autochtones fonder une famille atypique qui ne se désunit pas après la victoire. Les premiers, outre leur courage et leurs bras, apportent dans leurs musettes leurs utopies, leurs envies de refaire le monde. Les seconds offrent de partager leur bien le plus précieux, celui qui les use et les courbe toujours, la terre du Larzac. Elle n'est pas un simple et sublime décor, ni un symbole agité en ville pour citadins en mal de racine. Elle est l'objet du conflit, sa jouissance est cause du soulèvement. José et Alice vont y prendre racine et y concrétiser leur ballot de rêve. Ils sont néo-ruraux et ça se voit. Ils ne cherchent pas à dissimuler leurs différences. Ils en font autant de germes de dialogue, autant de semences qui contribuent à souder l'aventure collective du plateau. Hélène vient au monde en 78. Parce que la vie à Montredon n'est jamais coupée de l'amour et du militantisme. Elle est depuis longtemps le premier enfant né à domicile sur le plateau. La première, mais pas la dernière. Alice et José font partie d'un groupe de réflexion avec médecins et sages-femmes qui contestent la médicalisation de la naissance. Il sera jusqu'en 90 le plus grand groupe de France de naissance à domicile. Sur le Larzac, les principaux leaders paysans sont alors délégués communaux ou cantonaux de la FDSEA, dont le président est Raymond Lacombe. Les négociations avec le préfet de l'Aveyron, comme les marches sur Paris de 73 et de 78, se font avec l'infrastructure militante de la puissante centrale syndicale. Les tensions sont souvent vives entre les tenants de l'orthodoxie FNSEA et les nombreux groupes de soutien, souvent plus radicaux et quelquefois abondamment fournis en paysans travailleurs. Les jeunes squatteurs du Larzac n'avaient aucune expression syndicale propre, jusqu'à ce que, sous l'impulsion d'Alice et de José, ils fondent en 78 le Centre cantonal des jeunes agriculteurs, CCJA, qui porte rapidement Alice à la vice-présidence départementale. Elle peut désormais participer aux négociations et y défendre les positions les plus fermes. « Pas un mètre carré à l'armée !» sans que le couple rompe pour autant ses relations avec paysans-travailleurs. En 79, il change pour un troupeau de brebis laitières et commence à transformer le lait en fromage vendu sur les marchés. Du jamais vu sur les plateaux où leurs compagnons de lutte se contentaient de la rente des laiteries de Roquefort. Là encore, il faut s'accommoder de la précarité de leur situation. La machine à traire est sur groupe électrogène. La cave d'affinage est aérée par un ventilateur récupéré sur une Peugeot 203 branchée sur une batterie de 12 volts. Sur la base de l'échange de savoir et de la prévention dans le cadre de l'Arzac Université, Michel Fontaine, alors professeur à l'école vétérinaire de Lyon, vient sur le Larzac avec des étudiants vétérinaires. De ces rencontres naît l'association Vétérinaires éleveurs du Miavois, AVEM, salariant des vétérinaires au service des paysans. 20 ans après, l'AVEM est toujours là et regroupe près d'une centaine d'exploitations. En février 81, sans consultation des premiers concernés, la FDSEA et le CDJA s'apprêtent à accepter un compromis de mini-extension du camp militaire. À l'issue du rapport vigoureux qu'elle présente, Alice et tout le CCJA démissionnent en plein congrès départemental. Le 3 juin, Mitterrand tient sa promesse de candidat et annule l'extension du camp militaire. Pour les gens du plateau, l'aubaine est dans les 6300 hectares de terre devenus propriété de l'État et que les anciens propriétaires ne rachètent pas après l'annulation de l'extension du camp. Les paysans travailleurs viennent de muer en Confédération nationale des syndicats de travail paysans, CNSTP, et incitent les démissionnaires du CDJA à les rejoindre. À l'automne, c'est chose faite. avec le cabinet d'Edith Cresson, alors ministre de l'Agriculture, José et les militants de la CNSTP réfléchissent à l'usage des terres. Quand, sous la pression de la FNSEA, le ministère abandonne l'idée des offices fonciers, José et ses amis en gardent l'esprit. Ce stock de terres regroupé géographiquement et dégagé du poids de la propriété privée était une chance formidable pour l'agriculture. Tout en cherchant une solution juridique pour la gestion collective de ces terres, on a mis sur pied une commission installation, car le second terme du débat foncier est relatif à l'installation de nouvelles exploitations plutôt que l'agrandissement des fermes existantes. Un choix de développement volontariste allant jusqu'à réfléchir au profil souhaité pour les nouveaux venus. Le cadre juridique de gestion des terres prend la forme de la Société civile des terres du Larzac, SCTL, qui contracte un bail emphytéotique avec l'État. La SCTL sera un plein succès, un modèle du genre qui intéressera d'autres destinées collectives, notamment les CANAC. Associé aux réflexions sur le sujet, Bernard Lambert déclare « Puisque la France refuse de le faire, le Larzac deviendra le laboratoire foncier ». Le CNSTP, dont il est le porte-parole, a définitivement rompu avec le productivisme quelques mois auparavant, fondant un cœur de doctrine qui bat encore aujourd'hui à la Confédération paysanne. En 83, pour le 10e anniversaire du premier rassemblement sur le Larzac, la CNSTP choisit de faire son congrès à Millau, sous le signe du statut paysan. Les retrouvailles entre le plateau et la mouvance syndicale, qui le propulsa sur le devant de la scène sociale, sont scellées par un banquet mémorable. On y renoue les complicités, grossies d'une victoire totale, rehaussées par l'effacement des derniers écueils productivistes. José et Alice savourent la boucle renouée. C'est à la même époque que José et François Dufour se rencontrent pour la première fois, vraisemblablement dans les bagarres du lait et sur le foncier. François est toujours dans les bagarres. On s'est retrouvés sur ces thèmes-là, eux dans la Manche, luttant en permanence, nous faisant un peu pareil dans l'Aveyron. On se retrouvait à Paris pour en discuter. Ils deviennent et demeureront amis et complices. Ils se comprennent à demi-mot. Il suffisait de les voir, tous les deux dans les rues de Seattle en 99, pour aller voir dans le brouillard des gaz lacrymogènes à quoi ressemblaient de près les forces de sécurité américaines. L'électricité est arrivée à Montredon en 83, le téléphone en 84 et l'eau courante en 87. Il n'y a plus une ferme libre aujourd'hui sur le Larzac. À l'inverse des théories dominantes, les paysans ont prouvé qu'en développant le social, ils créaient de l'économie. Alice a laissé la ferme en 85 pour monter et diriger un centre d'initiative rurale, CIR. CIR, deuxième rejeton avec l'AVEM de Larzac Université. Depuis, les producteurs fermiers, les agrobiologistes, les chevriers, l'Association pour le développement du Larzac et le CIR ont créé la fédération départementale CIVAM, centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. En 87, aux Assises de Bondy, José présente avec succès la production de Roquefort comme un exemple de la dérive du productivisme. Quelques semaines plus tard, en avril, on lui demande de participer au premier secrétariat national de la toute nouvelle Confédération paysanne. À ce poste, José sera à l'initiative de nombreuses actions qui feront découvrir à l'opinion publique une autre conception de l'agriculture. Ces 4 années, qu'il avoue harassantes, permettent de commencer à construire une véritable alternative à la FNSEA. José reste jusqu'en 1997 au Comité national de la Confédération paysanne. Puis, comme c'est la règle dans l'organisation, au bout de 10 ans, il faut passer la main. C'est aussi ça, le changement de pratique syndicale. Dans l'Aveyron, avec ses camarades producteurs de lait de brebis, José a imposé une maîtrise et une répartition plus équitable de la production et siège aujourd'hui à l'interprofession Roquefort. Il a jumelé l'exploitation de Montredon à une ferme voisine pour former un groupe d'exploitation en commun de 5 associés. Le GAEC est diversifié puisque, à côté des 350 brebis laitières, il élève 220 brebis pour la viande, une dizaine de vaches et engraisse une trentaine de cochons par an. La moitié du lait de brebis est vendue aux caves de Roquefort, l'autre moitié est transformée sur place en fromage. La viande des brebis, vaches et cochons est vendue directement sur les marchés, sans intermédiaire, via un groupe d'intérêt économique, le GIE des Grands Causses, qui regroupe 12 fermes. Les associés du GAEC préfèrent créer de l'emploi plutôt que d'accumuler du capital. C'est ça la différence. Ils veillent fiscalement à décapitaliser au maximum l'exploitation afin que la part à payer pour les rejoindre ne soit pas trop élevée. Une porte ouverte à la jeunesse. Marie et Hélène sont étudiantes à Bordeaux, l'une en histoire, l'autre en droit, et n'envisagent pas de carrière agricole. De toute façon, la transmission héréditaire d'une exploitation est interdite par les statuts de la SCTL. La location d'une ferme est garantie à son bénéficiaire jusqu'à sa retraite, mais elle est liée à un usage. Tout candidat ou candidate à la reprise doit s'en expliquer devant l'Assemblée générale de la SCTL. Décision souveraine. Et c'est aussi sur les droits de succession que l'on change concrètement le monde. José demeure persuadé que le pot de terre est plus fort que le pot de fer. C'était donc l'histoire de José et de François et de leurs épouses qui n'étaient pas les moins dynamiques.